BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis terminerons l'émission avec nos chroniqueurs, Marjorie Adelson, aujourd'hui, qui reviendra sur un des livres phares de Georges Pompidou, puisque 2024 sera le 50e anniversaire de son décès. Et puis Belaouda Abdelhaïm avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier, bien évidemment. N'oubliez pas tous nos réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho. Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir sur l'émission, les références des bouquins dont on vous parle, les programmes, des extraits, des rediffusions, etc., etc. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Une librairie de l'écho dont l'ambition est immense aujourd'hui et à la fois modeste. Vous allez voir, puisqu'il s'agit de remettre un peu de sérénité, de lucidité et de calme dans le débat extraordinairement passionné autour de toutes les innovations technologiques, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, bien évidemment, mais aussi des crypto-monnaies, des NFT, des robots, du métaverse, pour ne citer que. Alors, allons-nous vers l'enfer ou le paradis? Notre vie va-t-elle être plus belle ou plus compliquée? Allons-nous travailler davantage ou beaucoup moins? Bref, le numérique est-il notre ami ou notre ennemi? Réponse avec nos deux invités. Guy Mamoumani, bonjour.
Bonjour.
Guy, vous êtes entrepreneur, business angel, enseignant. Vous avez dirigé le Syntec numérique, co-dirigé le Conseil national du numérique et Open, qui était une des principales boîtes.
Qui est toujours une boîte toujours magnifique.
Exactement. Mais dirige... donc vous n'êtes plus le co-dirigeant.
Je suis co-président, mais c'est dirigé brillamment par Frédéric Sebag, mon associé.
Voilà. Et vous publiez donc pour un numérique humain chez Herman. Fabrice Zera, bonjour.
Bonjour.
Fabrice, vous êtes entrepreneur dans la tech, essayiste, donc spécialiste de toutes ces nouvelles technologies, et vous publiez Tech ou Toc.
Tech ou Toc.
Voilà, aux éditions L'Archipel. Messieurs, question pour vraiment cadrer notre débat. Est-ce qu'on peut borner notre avenir? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire ce serait quoi le pire scénario avec ces nouvelles technologies, et ce serait quoi le scénario de rêve? Guy Mamoumani.
Je crois que c'est pas en ces termes que se pose la question.
Je sais, parce que on va venir après à la façon dont vous définissez le débat. Mais déjà, pour avoir un ordre d'idée, le monde horrible, c'est quoi? Le monde merveilleux, c'est quoi?
Un monde horrible, c'est la Chine.
Ouais. Voilà.
Monde merveilleux, alors si je cherche un exemple, ce serait l'Estonie par exemple, c'est-à-dire faciliter la vie des citoyens, un service public efficace, un enseignement qui a utilisé les technologies. Bon, on pourrait dire ça, même si je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il existe vraiment un paradis comme un enfer sur ces sujets-là. Bon, mon propos, c'est au contraire de dire que c'est en notre endroit.
On va y venir. C'est l'étape d'après. Fabrice, vous, quand on trace les trajectoires, finalement, on se dit, c'est quoi le pire monde de demain et c'est quoi le meilleur monde de demain?
Le pire monde de demain, c'est qu'on va voir une émergence des robots qui va apparaître grâce à l'intelligence artificielle, ouais, qui se démocratise à une force phénoménale. Donc, ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs en 3 mois. Et donc connecté à ces robots-là, on a vu cette vidéo il y a quelques jours d'un robot connecté à ChatGPT, et il devient presque humain, il commence à s'humaniser de plus en plus. Donc le monde merveilleux, c'est on appréhende ces robots, ils vont commencer à travailler pour l'homme et les aider. Ça veut dire que on va avoir des robots chez nous qui vont nous aider sur les tâches quotidiennes difficiles et de plus en plus intelligents. Et le monde mauvais, c'est dans la continuité de ce qu'on est devenu aujourd'hui à cause de tous ces réseaux et ces smartphones et cette technologie qu'on ne maîtrise plus. C'est le robot va commencer à remplacer progressivement l'homme.
Alors, on en vient au propos principal qui est un peu le vôtre, d'ailleurs dans chacun de vos livres, mais que vous commenciez à évoquer, Guy. C'est qu'en fait, notre avenir, ce sera pas l'enfer ou le paradis, ce sera surtout ce qu'on en fera. Est-ce qu'on sera capable d'en faire?
Oui, vous avez vu la phrase de Bergson que je cite dans le livre, notre futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons.
Ouais.
Donc, quoi qu'il arrive, c'est entre nos mains. Et par conséquent, pour éviter que ça soit l'enfer, hein, utilisation de l'IA dictatoriale par exemple de la Chine, de ce type de ou de robotisation, on va dire effrénée, eh bien je pense que il est très important d'acculturer, éduquer, former, se préparer à ce nouveau monde pour justement qu'il soit au service de l'homme et non pas l'inverse.
Alors quand même, transpire dans vos livres à tous les deux un certain optimisme. Clairement, vous dites le numérique, c'est clairement plus une opportunité qu'une menace. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste l'un et l'autre, Fabrice ?
Ça nous a changé nos vies, le numérique, déjà, dans le bon sens. C'est-à-dire que ça a facilité énormément de choses. On peut le voir aussi dans la médecine. On n'aurait jamais pu sortir de cette crise Covid sans l'intelligence artificielle. Ça nous a permis de développer des vaccins beaucoup plus rapidement. Donc dans le médical, c'est extraordinaire. Dans la qualité de vie aussi, il y a des vrais avantages. Maintenant, ce que j'appréhende, c'est un constat des 20 dernières années. C'est comment on a subi cette technologie-là. Et moi, le point important, ce que j'ai vu, hein, ce qui m'a choqué, c'est le jour de l'an sur les Champs-Élysées. C'est près de 500 000 personnes. Il n'y a pas une personne qui n'est pas avec son téléphone et qui capte le moment. Donc ça, c'est assez effrayant. Ça veut dire qu'on est devenu presque drogué de ces technologies-là. Les enfants passent en moyenne 7 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et ça va, entre le métaverse, l'intelligence artificielle, la robotisation, ça va être tellement puissant, un changement tellement puissant, que si on n'arrive déjà pas à sortir de ça, on va rentrer vraiment dans ces travers.
Alors justement, Guy, le cœur de votre livre, c'est justement d'essayer de tracer le chemin vers une transition réussie. Et vous listez tout un tas de conditions, de transitions qu'il faut réussir. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important ? Qu'est-ce qu'il faut réussir ?
Voilà. Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit, parce que c'est très intéressant, parce que le côté positif, je le partage totalement. C'est ce qu'on voit, hein, aujourd'hui. La médecine d'aujourd'hui progresse à une allure faramineuse grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, hein. Et puis, beaucoup d'autres exemples de l'apport de l'intelligence artificielle. En revanche, l'exemple des écrans est très intéressant parce que, pour moi, la responsabilité n'est pas au numérique, n'est pas à la technologie. La responsabilité est aux parents, aux enseignants, aux gouvernants qui doivent faire le nécessaire pour qu'on ait une utilisation raisonnée des écrans. Or, on les diabolise, mais en fait, ce n'est que juste un objet et une technologie. Par conséquent, il est très important et pour moi, c'est central dans mon livre, hein, c'est toutes les questions d'éducation. Et puis pour répondre quand même à votre question, parce que sur la première question concernant pourquoi nous sommes optimistes, moi j'ai une raison très simple. Écoutez, regardez ce que le numérique a apporté pendant le confinement. Continuité pédagogique, alors que des millions d'enfants auraient pu rester sans enseignants, même si on peut critiquer certaines choses, hein, mais il n'empêche que la médecine, la télémédecine, je ne vais pas rajouter sur ce que vous avez dit, le télétravail. On a réussi, par exemple chez Open, à mettre 4000 personnes au travail en 3 jours. Et on a eu une année correcte, alors que ça aurait dû être une catastrophe. Et pour finir, quelque chose qui est totalement inattendu, c'est finalement les liens sociaux qui sont apparus grâce au numérique.
Ça, c'est un des points qui, effectivement, vous serez peut-être pas d'accord tous les deux, d'ailleurs. C'est que vous dites, Guy, les réseaux sociaux augmente notre capital social, parce que finalement, avec les réseaux sociaux, on est en contact avec plein de gens qu'on n'aurait quand même jamais rencontrés avant.
J'en suis convaincu maintenant. Où on va se retrouver, c'est que je critique de la même façon les abus de ces réseaux sociaux, parce qu'il y a une mauvaise utilisation.
Alors Fabrice, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous, avec ça?
Moi, LinkedIn est un outil extraordinaire, professionnellement. Facebook était une promesse au départ... très bonne. La promesse de Facebook, c'était de rassembler les gens. Et c'était de la communication, simplifier la communication partout dans le monde. Et là, il y a TikTok qui est... je milite pour la suppression de TikTok en Europe. Et aux États-Unis, ça commence à vraiment bouger depuis quelques jours. Parce que TikTok, le chiffre effrayant qui m'avait... C'était 6 jeunes sur 6... un jeune sur 6 croit que la Terre est plate.
La Terre est plate.
Et c'est 1 sur 2 qui regarde TikTok quotidiennement.
Ah ouais. Parmi les gens qui regardent TikTok quotidiennement, il y en a 1 sur 2 qui pensent que la Terre est plate. Ouais, évidemment. Alors justement, Guy, vous vous dites, vous dites l'acculturation. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce...
Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça sert à rien d'interdire. Hein. Ça sert à rien d'interdire TikTok.
Oui, parce que vous êtes très clairs tous les deux. C'est-à-dire, ça sert à rien de lutter contre la vague.
Bah,
vous
oui.
voyez les propositions, par exemple, genre Najat Vallaud-Belkacem qui dit faut réduire le nombre de gigas.
Ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. En revanche.
Ouais.
Et là où je vous rejoins, hein, c'est tout à fait vrai. Personnellement, par exemple, je n'utilise pas TikTok, Facebook.
Ouais.
Voilà. Et j'essaye d'éduquer mes enfants, maintenant mes petits-enfants, à la même chose. Et quand mon fils a interdit à ses enfants d'avoir un smartphone jusqu'à l'âge de 13 ans, je lui dis « t'as raison ».
Ouais.
Vous voyez, c'est pour ça, je veux dire, je suis pas un inconditionnel ridicule. Non, il faut justement éduquer.
Mais vous voyez bien que toutes les catégories sociales ne sont pas armées de la même façon.
D'où
par rapport à ça. Et donc, comment on fait
le rôle de l'école.
On voit bien en Chine, le TikTok chinois est complètement différent. Ça veut dire que les jeunes de moins de 14 ans n'ont droit à 2 heures d'écran par jour, maximum, et interdiction entre 22h et 6h du matin. Et le contenu TikTok, c'est un contenu très éducatif et qui dure 30 minutes. Donc plutôt dans le même style que YouTube. Donc en fait, en Occident, ils ont mis quelque chose de très addictif de quelques secondes. On peut passer 5 heures sur TikTok et on se rappelle de rien en fait. C'est très rapide, c'est très court. Et
vous nous dites que c'est un produit que les Chinois nous ont envoyé pour nous rendre idiots, quoi.
Mais c'est... Alors, il y avait un docteur en neurosciences qui avait interrogé un officiel chinois et qui lui avait demandé pourquoi TikTok est différent chez vous. Et sa réponse était « Notre jeunesse, c'est notre avenir et on ne veut pas les abrutir. »
Ouais.
Voilà. Bah justement, l'école a un rôle à jouer.
Les parents aussi.
Est-ce que l'école d'aujourd'hui, Guy, vous lui faites confiance pour s'adapter, pour prendre ce virage?
Oui, c'est d'ailleurs un des chapitres.
Hein. Ah oui,
c'est pour ça que j'y crois fermement. Et d'abord, contrairement à ce que Jean-Michel Blanquer, que j'estime par ailleurs sur plein de choses, en tout cas, cette interdiction des smartphones à l'école est ridicule. On a là, justement, l'occasion pour tous les enfants d'expliquer ce qu'est une bonne utilisation des smartphones. Et il faut surtout pas, encore une fois, interdire. Ça ne sert à rien parce que vous pouvez toujours aller l'utiliser en cachette la nuit.
Mais ça limite. Moi, je suis plus pour une interdiction au collège parce que ça limite.
Bah, est-ce que
ça
vous savez que,
énormément.
D'ailleurs, je le cite dans mon livre, il y a une application qui s'appelle Modco. Comme vous avez un mode avion, vous avez un mode collège. Et quand on arrive dans la classe, on appuie sur cette touche mode collège. Et là, c'est sous le contrôle de l'enseignant. C'est ça qu'il faut retenir. Bien sûr que personne n'est pour que, pendant que le prof parle, on aille sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec vous, c'est évident. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Non pas interdire, mais éduquer.
Alors Fabrice Zera, vous soulignez très bien au début de votre livre, quand on est dans une période comme ça de foisonnement, d'invention... on a l'impression que tout va marcher. Or, en fait, en réalité, quand on regarde l'histoire, il y a eu énormément d'inventions. Et comme vous le dites, le cimetière des éléphants, des inventions technologiques, est quand même extrêmement, extrêmement garni.
Il est extrêmement garni. Enfin, on l'a vu là.
Recitez-nous quelques inventions qu'on a cru géniales et qui ont été des flops.
On va dire le bebop, mais c'était le pionnier, le précurseur de la téléphonie mobile.
Ouais.
Le Minitel aussi, qui est resté français, mais qui était encore une fois un pionnier. Plus récemment, les Google Glass, un départ sur la réalité augmentée, ça a été un flop terrible. Mais au moins, on a essayé et ça a été les premiers à le faire. Là, on le voit sur le métaverse, il y a des choses qui bougent. Pour l'instant, ça reste très anecdotique.
Il y a une déception, on peut pas...
Il y a une déception parce que c'est un programme sur 10 ans.
Ouais.
C'est un programme sur 10 ans, mais le métaverse, c'est une expérience qui est tellement extraordinaire que le jour où on trouvera le masque vraiment ergonomique, adapté et simple, avec une batterie aussi, et c'est ce que commence Apple, là, quand on voit déjà que les gens passent 7 heures par jour sur les réseaux sociaux, enfin je parle des jeunes, quand ils auront ces masques-là, ils pourront passer quasiment toute leur journée.
On pourra vivre
2 ans. Moi, je suis convaincu, mais ça prendra... Bon. Apple initie, Meta y est depuis quelques années, mais c'est vraiment un programme de 10 ans. Et c'est un frein, le frein technologique, c'est le hardware. Le smartphone a pu se démocratiser grâce à l'iPhone. Lorsque l'iPhone est sorti, tout ce qui était les BlackBerry, les Palm Pilot et autres, qui étaient les ancêtres du smartphone, ont tous disparu et tout s'est démocratisé grâce à cette rupture techno. Donc il nous faut cette rupture technologique du masque qui va faire que le métaverse va se démultiplier énormément.
Guy Mamoumani, si je vous dis métaverse, crypto, NFT, est-ce que là-dedans, il y a des choses qui vous paraissent finalement éphémères ou est-ce que vous vous dites non, il y a des vraies tendances de fond dans tout ça?
Bah oui,
comment on trie le bon grain de livret?
Bah, c'est aussi un chapitre du livre parce que je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Contrairement à tous ceux qui nous ont annoncé que tout ça allait disparaître, etc., c'est juste une question de timing. Moi, je parle plutôt du Web 3. Hein, Web 3 qui est, pour moi, l'évolution naturelle du Web et du Web 2 et d'arriver au Web 3.
Alors, Guy, en trois phrases.
Le Web, c'est finalement consultation sur Internet.
D'accord.
Le Web 2, c'est l'interaction, les réseaux sociaux.
La vidéo.
Web 3, c'est la déconcentration et de donner la propriété à tous les utilisateurs. Et donc ça, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur la blockchain, c'est basé sur les NFT, c'est basé sur le métavers.
Donc là, vous diriez qu'on est un peu entre le Web 2 et le Web 3.
Exactement. Mmh. Et bon, alors il va y avoir un peu de temps, et des usages, un peu de temps, mais on va y arriver très naturellement. Mais aussi, évidemment, en séparant le bon du mauvais, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut dégager, hein, et des arnaques, etc. Donc ça, ok, il faut le mettre de côté.
Après, pour bien hiérarchiser, on peut dire que, par exemple, le Web 3, la blockchain, on est du niveau des infrastructures, et on peut dire que si, après tout, les NFT, ça marche pas, ou les crypto-monnaies, ça marche pas, ça remet pas en cause...
La techno.
Ces technologies-là.
Pas du tout, absolument pas.
Voilà. Mais alors, si c'est pas les NFT tels qu'ils sont conçus, un autre type de NFT. Le NFT, c'est un certificat de propriété numérique. Ouais. On en aura besoin. Voilà, donc...
Ça remplacera le notaire.
Voilà.
Ouais. Ça remplacera le notaire. Donc
alors quand même, messieurs, l'intelligence artificielle, comment ne pas douter quand même les concepteurs de cette intelligence artificielle ont l'air effrayés par ces produits. Ça, c'est quoi ça? C'est du bidon, c'est du marketing, c'est...
Faut déjà rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas apparue en octobre 2022 avec ChatGPT.
Oui,
ça fait 40 ans.
Ça a démocratisé, là.
Voilà, ça fait 50 ans qu'on fait de l'intelligence artificielle et que c'est déjà utilisé dans des entreprises. Et ma foi, personne n'en est mort. Alors, évidemment, l'avènement de ChatGPT, ça a apporté quelque chose. Finalement, avant, l'intelligence artificielle était réservée à des techniciens, des informaticiens. ChatGPT, c'est du langage naturel, évidemment. Alors, j'ai dit, tout le monde peut l'utiliser et c'est d'une puissance phénoménale. Alors après, vous avez quand même le culot des culots, un Elon Musk qui fait une tribune avec d'autres pour dire « Oh, il faut ralentir !» et compagnie. Bon. Ça n'a aucun sens, d'autant plus que lui, c'est un des principaux acteurs.
D'un autre côté, il montre d'autres entrepreneurs.
L'idée, c'est quoi? C'est on ferme la porte derrière nous, quoi.
Non, on ralentit.
Et on empêche les autres d'entrer.
Il y a souvent beaucoup de gens qui vous disent, il faut ralentir, on a peur, le défenseur des droits, etc. Attention, ça va trop vite. Moi, je considère que, d'abord, ce n'est pas possible de ralentir. Parce que vous allez ralentir, la Chine ne va pas ralentir, et puis d'autres ne vont pas ralentir. Donc, ce n'est pas possible. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer, c'est apprendre à surfer sur cette vague. Donc, c'est à nouveau la question d'éducation, d'information pour préparer à ce nouveau monde.
Sauf que Fabrice, vous dites, attendez, vous dites quand même, ça va trop vite et il va falloir faire une pause dans l'intelligence artificielle.
Ça va trop vite. Moi, le constat, c'est un constat d'échec européen, c'est qu'on ne maîtrise plus les datas. Et l'intelligence artificielle s'alimente des datas. 92% des datas occidentales sont hébergées aux États-Unis. Donc en fait, on va dépendre complètement des technologies américaines. Et c'est là où il va falloir être très vigilant.
Est-ce que c'est si important que ça ? Je veux dire, est-ce que c'est un véritable inconvénient de n'être que utilisateur de ces technologies ?
Quand vous avez imaginez un monde, alors en plus avec l'actualité ou un candidat aux élections américaines, dit celui qui paye pas à l'OTAN, pas de défense.
Ouais.
On le considère comme un voyou. Qu'est-ce qui ferait qu'il ne coupe pas nos datas?
Alors, il faut quand même préciser une chose.
C'est
pas 92% aux États-Unis.
Oui.
C'est 92% dans des boîtes américaines.
Dans
c'est ça que vous voulez dire.
Oui,
c'est pas la même chose.
Oui, mais c'est aux États-Unis.
Voilà. Ça dépend de boîtes américaines.
Avec le Patriot Act.
Voilà, vous faites référence au Cloud Act et au Patriot Act. Donc là, c'est une autre histoire parce que vous avez des données qui sont installées dans des pays européens, en France et ailleurs, et qui sont sur des sociétés américaines. Donc, qui relèvent du Cloud Act. Le Cloud Act, on peut le discuter. On peut s'en protéger. Alors donc, Il y a quand même, c'est pas aussi automatique que ça. Les données, elles sont pas parties aux États-Unis. Hein, donc, et d'ailleurs, je cite comme exemple Health Data Hub, qui est sur justement le Microsoft Azure.
Et donc, qui a été fait il y a quelques semaines.
Voilà. Mmh. Et on a encore une fois, on peut pas taxer la CNIL de parti pris. La CNIL dit, bah écoutez, on peut pas faire autrement pour l'instant. Mmh. En revanche, il y a un vrai sujet politique, et là, je vais vous rejoindre sur cela, c'est que l'Europe devrait être capable de faire émerger des acteurs du cloud européen, de façon à être libéré de ce Cloud Act. Mais en attendant, la CNIL le dit elle-même, on n'a pas trop le choix. Voilà.
On n'a pas le choix, parce qu'en fait, faut avoir peur des GAFAM ou pas ?
Bah complètement. Enfin, c'est-à-dire, on maîtrise plus rien aujourd'hui. C'est des États dans l'État. Et ils maîtrisent toute la techno. En fait, il y a le problème de gestion de la data, mais la data est chez eux dans ces boîtes technologiques parce qu'elles maîtrisent la technologie. Et on n'en a pas la maîtrise. C'est pour ça qu'il faut penser européen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas même technologiquement. Je prends le cas des FT120, c'est les 120 pépites françaises, ouais, dont certaines licornes. Quand vont consolider leurs chiffres d'affaires, elles représentent à peu près 11 milliards d'euros. Si vous prenez le chiffre d'affaires des AirPods d'Apple, ça fait 35 milliards de dollars. Donc en fait, il n'y a pas de... Bon, il y a des très belles ESN, il y a de la belle technologie hardware, ce qu'on a historiquement en France, ce qu'il y a eu avec la carte à puce aussi. Mais sur la partie cloud, sur la partie hébergement, sur la partie cybersécurité, on est complètement dépassé parce que les investissements américains sont largement supérieurs aux seuls investissements français. On n'a jamais pensé européen. Et c'est ça la fermeture.
Alors ça, c'est juste. En même temps, vous avez par exemple une initiative qui s'appelle Gaïa-X, européenne, qui a été un échec.
Qui a été un échec,
voilà.
Bien sûr.
Donc oui, donc si vous voulez...
Oui, mais parce qu'on n'y a pas mis assez de start-up de créativité derrière.
Moi, tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un sujet, dire avoir peur des GAFAM, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'on n'a pas à en avoir peur. Les utiliser d'une part parce qu'on peut pas faire autrement et
on peut pas faire autrement, voilà. Ça c'est clair, mais voilà. Ça reste un échec.
Et surtout faire le nécessaire, ouais, pour faire émerger des acteurs européens.
Alors deux points. Il y a une phrase qui m'a interpellé parmi tant d'autres dans votre livre, Guy, c'est vous dites il y a une main invisible du numérique, en gros par laquelle le numérique résout les problèmes posés par le numérique. À condition qu'il y ait de l'innovation.
Ah, je suis convaincu de ça. Ouais. Alors, ouais, je suis convaincu. Ça, je sais que... Alors, quand je dis ça, on me traite de scientiste, etc. Mais non, non. Écoutez, je pense que dans tous les sujets que nous avons à traiter, le numérique lui-même est capable de trouver des solutions. Je vais donner un exemple. On a un gros problème entre le numérique et l'environnement. Eh bien, vous avez des startups, d'ailleurs, que je cite, par exemple AquaSmart, dans laquelle j'ai investi, qui est une startup qui utilise l'intelligence artificielle pour économiser, diagnostiquer les fuites d'eau. Donc voilà une solution contre l'utilisation du numérique dans l'environnement. Autre exemple, vous avez des tas de gens qui font du hosting, enfin de l'hébergement, qui aujourd'hui vont utiliser la chaleur dégagée par l'hébergement pour chauffer des piscines, des appartements. Et on peut avoir comme ça des milliers d'exemples pour montrer que le numérique en lui-même peut trouver des solutions.
Dernier point qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est sur le travail. Fabrice Zera, je vous sens quand même tous les deux un peu optimistes sur ce. Est-ce que finalement le numérique au sens large va améliorer notre rapport au travail ? Est-ce qu'on va travailler mieux ? Est-ce qu'on va travailler moins ? Ou est-ce que carrément l'intelligence artificielle va détruire beaucoup d'emplois ? Comment vous voyez notre avenir au travail ? L'un et l'autre.
Les études parlent d'une destruction de 300 millions d'emplois. Mais moi, je suis convaincu que sur chaque technologie, on crée de nouveaux emplois. Je pense qu'avec... là, il y a un vrai tournant avec cette intelligence artificielle et ce robot. Je pense que d'ici 5-10 ans, on va vraiment se poser la question entre embaucher un robot ou embaucher une personne. Donc moi, je crois peut-être au retour du revenu universel, ce qui existe au Qatar. Donc les robots produiront et on aura un revenu universel qui nous permettra de vivre différemment. Ça se trouve, nos petits-enfants se diront comment nos grands-parents ont pu travailler.
Guy, je vous donne la parole, mais moi je suis convaincu que la quatrième transition qu'on n'a pas encore évoquée après la transition écologique, après la transition numérique et après la transition démographique, c'est la transition fiscale. Parce qu'il va bien falloir trouver des nouvelles bases fiscales. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le travail.
Oui, je voulais juste préciser une chose. L'étude du BCG à laquelle vous faites référence. Alors, à l'origine, quand ils ont publié, c'est 300 millions d'emplois qui seront touchés, impactés. Et tout le monde a entendu supprimer. Là, McKinsey a sorti il y a deux mois une autre étude en montrant que 10%,
ça va très vite.
10% d'emplois seront supprimés, 45% seront touchés. Moi, j'ai la conviction.
Mais parallèlement, que ça va créer 1,5 point de PIB en France si
en plus,
on investit dans l'IA.
Exactement. Oui, c'est pour ça qu'il y a un rapport à trouver aussi. Des centaines et des milliers d'emplois. Donc moi, je reste convaincu que nous aurons bien sûr une transformation du travail.
Ouais.
Vous avez peut-être vu que le patron de Nvidia là, a annoncé qu'on n'aurait plus besoin de développeurs, parce que l'intelligence artificielle va développer elle-même. Bon, tout ça, c'est ridicule. Alors justement, l'avantage que j'ai, c'est d'avoir une petite expérience.
Ouais, parce que vous avez mis les mains dans le cambouis.
Voilà, les mains dans le cambouis.
Pendant des décennies.
Et je peux vous dire, vous demanderez à Frédéric Sebag et Groupe Open ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est plus de 1000 développeurs. Ils en recrutent 1000 chaque année et ils pourraient en avoir 1000 de plus. C'est ce que j'ai dit à tous ces annonceurs donc de disparition. C'est que sur ces métiers-là, en tout cas, je peux les contredire.
Ça fait
10 ans qu'ils m'annoncent ça. Hein, le docteur Alexandre, dans son livre La guerre des intelligences, a annoncé la même chose. Et c'était il y a une dizaine d'années. Donc non, moi je ne pense pas. En revanche, et ça c'est vrai pour les avocats, pour les médecins, etc., l'intelligence artificielle va changer la nature de leur métier. Et peut-être que ceux qui savent utiliser l'intelligence artificielle remplaceront ceux qui ne le savent pas. Ça c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette tension? C'est que jusqu'à présent, le numérique s'adressait à ce qu'on appelait les cols bleus. Comme vous l'avez dit, les robots pour les ouvriers, etc. Eh ben maintenant, ben non, tout le monde est concerné. Oui, ok, eh ben tout le monde doit s'y mettre et se former.
Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette première partie de la librairie de l'écho. Je rappelle vos deux livres, Fabrice Zera, Tech ou Toc, très bon titre. C'est aux éditions L'Archipel. Pour un numérique humain, ça c'est vraiment votre credo, Guy Mamoumani. Même dans votre précédent ouvrage, c'était au cœur du livre. Ça s'appelle donc Pour un numérique humain, les 8 conditions d'une transformation réussie chez Hermann. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Marjorie Adelson qui nous parlera de Georges Pompidou et puis Benaouda Abdedaïm, notre globetrotteur et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, animateur de la rubrique livre aussi d'Alternative Économique, et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique lui aussi attitré et vénéré par les membres de la Société d'économie politique. Allez, tiens, on démarre avec votre choix. Jean-Marc, un livre un peu sulfureux. Je l'espère, en tout cas. L'affaire Tapie, vérité et mensonge, par Jean Perlevade, aux éditions Odile Jacob.
Oui, donc Jean Perlevade, tout le monde le connaît. Il a été conseiller de Pierre Mauroy quand il était Premier ministre. Il a été à la tête de l'UAP, puis il a été à la tête du Crédit Lyonnais juste après la faillite, même si c'est peut-être un mot un peu excessif. Enfin, après la mise en place d'une politique de redressement à laquelle il a été associé. Et dans les éléments de cette politique de redressement, il y avait effectivement le fait que Bernard Tapie avait comme banquier le Crédit Lyonnais et surtout une des filiales du Crédit Lyonnais. Et donc, dans toute la procédure qui a suivi, notamment celle qui a été mise en avant par Bernard Tapie autour de la vente, revente d'Adidas. Il a été mis en cause. Et donc, il dit au tout début, écoutez, moi, j'avais pas l'intention de réagir. L'affaire est close. Bernard Tapie est mort. Tout ça est terminé. J'ai été abondamment abreuvé d'insultes, d'injures. Mais bon, on passe. Sauf que, dit-il, maintenant, il y a un feuilleton à la télé. Il y a toute une espèce de saga qui est en train de se construire autour de Bernard Tapie. Il est en train de nous présenter ce personnage qui est au-delà de sulfureux, qui est carrément, d'après plus ou moins, d'après Jean Perlevade, un escroc. On est en train de nous présenter ça comme un héros. Ah ben,
Jean Perlevade, c'est un des pires ennemis. Ça a été un des pires ennemis de Bernard Tapie.
Et donc, il dit, je vais revenir sur la vérité, sur ce qui s'est vraiment passé autour, un, de l'affaire Adidas et deux, de l'arbitrage qui a été un des moments forts de cette affaire et des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'arbitrage. Alors, c'est un plaidoyer pro domo. Hein. Il expose, il dit « je me défends ». Il dit « on m'a insulté, on m'a traîné dans la boue, je veux rétablir mon honneur ». Il le dit à plusieurs reprises. Et donc, il construit son raisonnement de façon très factuelle. Il rappelle d'abord qu'au moment de la vente d'Adidas, c'était pas lui qui était à la tête du Crédit Lyonnais. Donc, on le met en cause alors qu'il niait pour rien. Ensuite, que c'est effectivement lui qui a décidé de liquider le BTF, Bernard Tapie Finance. Il a demandé la mise en liquidation de Bernard Tapie Finance et que Bernard Tapie a réagi de façon absolument invraisemblable. Il y avait un certain nombre de ses meubles et son hôtel particulier qui avaient été mis en gage en face de sa dette. Il a organisé, Bernard Tapie, le rapt de ses propres meubles. Il y avait le Crédit Lyonnais qui se méfiait, le surveillait. Donc, il y a un passage où il raconte comment, effectivement, les gens poursuivent dans les rues de Paris pour essayer de voir où vont venir des meubles. Ils sont des meubles qui sont, en fait, des copies qui ne sont pas aucune... Enfin, bref, il raconte tout ça de façon assez... on sent bien qu'il tient à cœur de, quand même, de se justifier.
Oui, c'est ça, l'affaire est close, mais pas pour lui.
Le style est quand même assez tendu. Il est convaincant, en fait. On sort de là en se disant vraiment, ce Bernard Tapie aurait été un escroc de grande envergure.
Bon, Christian, c'est la vérité ou c'est sa vérité,
La justice a tranché. Donc, la justice dit que la vérité de Perlevade est la vérité. En tout cas, on ne ressort pas indemne d'un affrontement avec Bernard Tapie. Parce que, comme l'a dit Jean-Marc, la dernière phrase du livre, c'est pour moi chapitre est clos, la page est tournée, elle est tellement tournée qu'il en fait un livre, se replonge dans des notes qu'il avait prises en 2020, il se replonge complètement dans le dossier. Et de fait, on se retrouve avec un... Alors, c'est pas Bernard Tapie dans son intégralité, c'est le Bernard Tapie homme d'affaires, et spécifiquement l'affaire Adidas qui a opposé le Crédit Lyonnais à Bernard Tapie, mais visiblement, à titre humain, beaucoup, Bernard Tapie à Jean Perlevade, alors que, comme Jean-Marc l'a dit, au moment de la revente et de tout ce qui s'est passé après, Perlevade n'était plus à la tête du Crédit Lyonnais. Donc, il nous décrit un personnage très mauvais gestionnaire. Il a repris, vous savez, des entreprises un franc symbolique. On disait à l'époque, je reste dans le franc, parce que comme Jean-Marc appelle des séries des feuilletons, on va parler de franc. Donc, Adidas, il essaie d'en faire quelque chose, mais en fait, il n'en fait rien du tout. Au moment où il doit rembourser, ne serait-ce que payer les intérêts de ses dettes, il les capitalise. Au moment où il doit rembourser le capital, il dit, j'ai pas plus d'argent, donc il fait du debt equity swap, il transforme sa dette en capital. Bref, un très mauvais gestionnaire. Alors, Perlevade de dire en plus, non seulement c'est un mauvais gestionnaire, mais c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il y a toute cette histoire complètement folle de... le Crédit Lyonnais, en fait, m'a arnaqué au moment de la revente d'Adidas et s'est fait de l'argent sur mon dos. Et c'est ce qui va traîner pendant des années, au moment où...
Est-ce que c'est vrai, ça ?
Non, au moment où l'État va gagner, Nicolas Sarkozy intervient, on passe à un arbitrage privé. L'arbitrage privé dit oui, Bernard Tapie a été lésé. Et puis l'arbitrage est cassé parce que l'arbitrage a été manipulé. L'arbitrage est cassé, donc la justice dit non, il n'y a pas eu manipulation. C'est les arbitres qui ont manipulé le tout pour redonner de l'argent à Tapie. Donc Tapie a eu de l'argent, puis on le retire l'argent à Bernard Tapie. Et la justice a donné raison à Jean Perlevade qui se présente, et moi je le crois plutôt, comme un banquier qui fasse... Il le dit, mais Bernard Tapie, quand je suis arrivé au Crédit Lyonnais, c'était le moindre de mes soucis. C'était un petit machin dans l'ensemble des problèmes du Crédit Lyonnais. Ouais. Pourtant, ça a occupé mon esprit et mon temps plus que de raison. Et qu'est-ce que j'ai fait face à n'importe quel débiteur un peu médiatique ou même un peu gros ou pas médiatique du tout? J'ai, comme banquier, j'ai essayé de récupérer l'argent. C'est tout ce que j'ai fait. Et Bernard Tapie, lui, en a voulu. Donc, c'est vrai, il a voulu saisir ses meubles, il a voulu saisir ses œuvres d'art. Donc, Jean-Marc l'a raconté, déménagement rocambolesque dans les rues de Paris, le gars de la sécurité qui suit. Donc, on essaie de... Bref, une histoire... complètement dingue, et je trouve que Jean Perlevade ressort, comme dans son livre où, quand il racontait comment il a redressé le Crédit Lyonnais, moi c'est Jean Perlevade que j'aime bien, il est carré, il est droit dans ses bottes, il raconte l'histoire, elle est très factuelle, et en même temps, c'est sa petite vengeance.
Voilà, un banquier presque ordinaire face à un homme d'affaires pas ordinaire du tout.
Homme d'affaires étant un mot...
Homme d'affaires au pluriel, au singulier, allez, voilà. comme vous voulez. Allez, on passe à votre choix, Christian. Ça s'appelle « Un cadre en révolte ». C'est écrit par Marc Verret. C'est publié chez Duno.
Alors, Marc Verret aurait dû rester un Mister Nobody. Le jeune type qui fait ses études à Dauphine, comme des milliers de gens qui ont fait des études de business, il va travailler un cabinet d'audit et de conseil, là, en l'occurrence, c'est EY. On sait bien que ces 5-6 premières années, c'est difficile, faut en mettre un coup, mais on se fait une bonne expérience et gagner d'adresse au bout de 5-6-7 ans.
C'est la lessiveuse,
au bout de 5-6-7 ans, on s'en va, et puis voilà, il y a milliers de gens qui font ça et qui disent rien. Sauf que là, il va se retrouver face à une société, donc c'est son témoignage à lui, et ils disent non, c'est pire qu'une lessiveuse. Les gens tombent malades, c'est du burn-out permanent, et en plus c'est le business model, il nous dit de UI. Vous avez une mission spécifique, on vous donne tant d'heures, donc tant d'heures facturées aux clients. Si vous dépassez, ça devient moins rentable. Comme vous êtes, ils sont tous embauchés comme des cadres au forfait annuel, bah vous êtes payé un nombre d'heures par an, et si vous dépassez, bah tant pis pour vous. Mais pour réaliser les missions, il faut dépasser. Donc, il faut travailler le soir, la nuit, le week-end, pendant vos vacances. Et il dit, c'est des conditions de travail qui sont insupportables pour la grande majorité des gens. Et face à ça, bon, le père Hirschman a raison, exit voice loyalty, hein. Exit, il dit, la moitié de ma promo en 3 ans a déjà démissionné et est partie, tellement les conditions sont difficiles. Il y a Loyalty, il y a le syndicat maison en gros qui dit non, tout se passe bien, on fait rien, on demande rien. Et lui, il décide de faire Voice. Lui, qui est un jeune gaulliste engagé dans les Républicains, devient délégué CGT au sein de EY, ce qui est pas courant. Et le voilà parti à mener ses combats. Manque de chance pour lui, c'est en pleine pandémie quand il arrive à être délégué.
Ah oui, donc c'est très récent.
Donc c'est très très récent et il est jeune, hein, il a entre 25 et 30 ans. D'accord. Et pleine pandémie, donc droit à la déconnexion, il nous dit l'entreprise plutôt le droit à surtout de se pas déconnecter. Il faut bosser tout le temps. L'entreprise nous dit, vous savez, on va être obligé d'avoir une mini vague de licenciements parce qu'avec la pandémie, tout ça s'est réduit. Regardez, les résultats sont pas bons. Il retrouve les informations sur les filiales à laquelle appartiennent les gens qui l'emploient. S'aperçoit que la filiale, au contraire, tous les profits sont remontés dans une filiale qui multiplie par 3 les dividendes versés aux actionnaires. Donc, soit on multiplie par 3, c'est qu'il y a eu des résultats. Les résultats sont pas dans notre filiale, mais sont ailleurs. Bref, il est pas content du tout. Après la pandémie, il enchaîne avec des négociations pour essayer d'améliorer les conditions de travail des gens. Il contacte un peu les gens partout qui disent « Oui, les conditions de travail sont déplorables, on préfère rien dire, mais les conditions de travail sont déplorables, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. » La direction veut rien faire. La direction fait une chose, moi je croyais que c'était interdit, fait sauter le 48 heures de travail hebdomadaire maximum. Je crois que c'était une loi européenne, ouais. C'était illégal de passer outre. Et là, il nous dit, dans la négociation, la direction a mis ça et c'est passé, ça a été voté. Bon, il me semblait que moi, c'était illégal. Bon, bref, il nous dit, puisque ça marche pas, je vais faire appel aux médias. Et donc, il envoie des lettres aux médias pour expliquer son cas. Le Monde réagit, mais surtout, BFM Business et Le Figaro vont être deux gros médias qui vont beaucoup réagir, mettre en avant son histoire et cette stratégie d'ouverture vers l'extérieur. Bah, après la presse, c'est le livre pour faire connaître son histoire. Et à la fin, il nous dit, bon, voilà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on est dans une multinationale, il y a un syndicalisme un peu transnational. Il faudrait qu'il y ait des référendums d'initiatives salariées pour que quand les salariés ont un problème, on puisse mettre quelque chose sur la table, puis voir si les gens sont d'accord ou pas d'accord. Mmh. Petite dernière info qu'on a eue juste cette semaine, EY est collé au prud'homme par une femme enceinte qui a une grossesse difficile. Au moment où elle était alitée chez elle, elle avait des mails et des coups de fil de sa supérieure hiérarchique pour dire « faudrait peut-être que tu te mettes à bosser ma cocotte ». Et quand elle est revenue, elle a été complètement placardisée. On n'en a pas fini avec EY et les conditions de travail et c'est un des témoignages qui met ça en avant.
Jean-Marc Daniel.
Écoutez, au tout début de son intervention, Christian dit qu'il aurait pu rester Mister Nobody. Moi, je pense qu'il aurait dû rester Mister Nobody. Le livre, à mon avis, d'abord, est très confus. Il est court, mais il y a toute une partie où il y a une logorie idéologique. Alors, il explique effectivement qu'il est gaulliste de gauche. Donc, il nous donne sa vision de la nation et tout ça. Bon, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, son témoignage sur EY, il y en a... Et franchement, tout le monde sait effectivement que les premières années, c'est extrêmement exigeant. Il parle du séminaire à Bénodet, donc comment on crée...
Séminaire d'intégration.
Le séminaire d'intégration à Bénodet, comment on crée l'intégration. Tout ça a été décrit dans beaucoup déjà d'œuvres. Et ce qu'il raconte, c'est effectivement à la fois très banal, très assez évident. On sait comment ça fonctionne, tous ces cabinets. Et il s'indigne de choses qui sont... Alors effectivement, il est très fatigué, il est malade. Et la seule chose que j'ai trouvé assez intéressante, c'est que quand il aux élections professionnelles, il fait un score lamentable. Il est censé porter la revendication des salariés, mais les salariés ne se reconnaissent pas en lui puisqu'ils votent pas pour lui. Mais la seule chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'il dit qu'en fait, le véritable problème, c'est un sentiment de déclassement. Et à un moment donné, il dit effectivement, nous étions tous là avec un master et on avait des anciens qui avaient juste une licence et qui voyageaient en Concorde, alors que nous, on avait avec notre master, on était pressurés et tout ça. Et le sentiment, il y a un sentiment que, effectivement, non seulement EY est responsable de la façon dont on les traite, mais aussi le système, généralement, leur a menti au départ. On leur a dit, vous avez fait une école de commerce, vous avez fait Dauphine et tout ça, et vous vous retrouvez dans une situation où il dit, on gagne, quand on regarde par rapport au SMIC, on gagne de moins en moins par rapport au SMIC.
1,25 fois le SMIC.
On est de plus en plus pressuré, de moins en moins considéré, et il dit, il y a un système globalement qui est un système qui ment, en disant aux gens, faites des diplômes, vous aurez un statut, et à force d'avoir multiplié ces diplômes, on les dévalorise, et c'est ça le vrai problème, sentiment général de déclassement, d'absence de reconnaissance. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je ne pense pas que la CGT soit la solution, d'autant plus qu'il dit, j'avais quand même des doutes vis-à-vis de la CGT quand je me suis aperçu qu'ils étaient à la manifestation contre l'islamophobie. Je me suis dit quand même que j'étais pas forcément dans un endroit qui était un endroit qui correspondait à mes aspirations. Et donc, bilan de tout ça, on enfonce beaucoup de portes ouvertes et le livre n'est pas très passionnant.
Bon, et ben voilà, c'est votre avis, cher Jean-Marc. Eh bien, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire, Marjorie Adelson, le nœud gordien, Georges Pompidou.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Et on retrouve notre bibliothécaire du jour, Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie.
Bonjour.
À l'occasion des 50 ans de la mort de Georges Pompidou, vous nous présentez ce qui est peut-être son livre testament, Le Nœud Gordien, aux éditions Perrin.
Eh ben, c'est un livre, il faut savoir, qui n'a été publié qu'après la mort de l'ancien président.
Ouais.
Et donc, vous le disiez, il va être réédité en avril aux éditions Perrin.
Exactement.
Alors, c'est un essai politique, en fait, qui est inachevé, puisque Pompidou a commencé à l'écrire juste après mai 68, alors qu'il était Premier ministre, mais il a été interrompu par son élection en 1969. C'est un texte, en fait, dont l'intérêt est double. Alors déjà, il nous éclaire sur les années 1969-1974, pour ceux qui ne les ont pas connus. Et puis, au-delà de ça, eh bien, il est extrêmement visionnaire.
Alors déjà, Georges Pompidou, il s'attaque à un thème un peu récurrent qui est les Français, c'est impossible de les gouverner.
Exactement, il parle par exemple de cette exception française, selon lui, qui fait que les Français ont du mal à accepter toute forme d'autorité, avec un corollaire, remettre en cause l'État dès qu'il y a une crise politique. Et le fameux nœud gordien dont il parle, eh bien, c'est comment en fait concilier un État tentaculaire avec la montée de l'individualisme. Au moment où il l'écrit, il estime que le fascisme est proche. Voici ce qu'il dit. Le fascisme n'est pas si improbable. Il est même, je crois, plus près de nous que le totalitarisme communiste. À nous de savoir si nous sommes prêts pour l'éviter, à résister aux utopies et aux démons de la destruction.
Ouais, c'est vrai qu'on vous disait que c'était moderne.
Exactement, quand on voit surtout la tentation autoritaire qu'il y a en Europe, mais pas que en Europe, hein, on se dit qu'il n'avait pas tout à fait tort.
Alors il y a aussi tout un volet économique dans le Nœud Gordien.
Oui, et cette partie, elle a vraiment un sacré écho. Pompidou revient par exemple longuement sur la difficulté d'établir une politique économique quand on est au pouvoir, avec selon lui, d'un côté les libéraux qui ne parlent que de la manière de gagner de l'argent, et de l'autre les socialistes qui sont obsédés par la redistribution de la richesse sans trop s'intéresser à comment on la crée. Ce qui est amusant, c'est que là aussi, eh bien, ça pourrait tout à fait être écrit aujourd'hui.
Et alors effectivement, il n'y a pas que ça comme préoccupation hein, qui font écho à ce qui traverse aujourd'hui la société française.
Oui, par exemple, il y a un exemple qui est intéressant, c'est qu'il affirme l'urgence de construire des logements pour les classes moyennes. Mmh. Et rappelez-vous, ce sont un peu les annonces il y a quelques semaines avec les fameux 1 milliard d'euros pour les logements intermédiaires. Alors, il y a un côté qui est un petit peu inquiétant aussi parce qu'on se dit qu'on a toujours les mêmes problèmes et qu'on a du mal à trouver les solutions. Autre question qui est abordée aussi dans l'ouvrage et qui s'est énormément posée pendant le Covid et l'inflation, eh bien, c'est celle de l'interventionnisme de l'État. Pompidou estime qu'en période de croisière, eh bien, l'État doit se garder d'intervenir, mais que sinon, il faut faire des plans. En lisant ça, moi, je pensais au bouclier pour le gaz, au plan France 2030, par exemple. Et c'est vrai que des plans, eh bien, Pompidou, il en a fait, le TGV, la NPE, l'aménagement du territoire et même les stations de ski avec le plan neige. Donc vraiment, ce qui est intéressant dans ce livre, eh bien, c'est qu'il humanise aussi un petit peu les politiques dans le sens où on se rend compte à quel point, en fait, eh bien, un, il est très difficile de gouverner la France, et deux, qu'il faut jongler en permanence avec des intérêts qui sont très divers. C'est donc comme ça une sorte de petit guide de la politique que vraiment je conseille à tous. Et d'ailleurs, je pense que ce petit livre, eh bien, Emmanuel Macron l'a lu.
L'a lu et il pourra le relire donc dans la nouvelle version qui sortira mi-avril aux éditions Perrin. Merci beaucoup Marjorie. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotteur Benaoud Abdennaïm.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Ben Aouda, bonjour.
Bonjour.
Ben Aouda, on commence notre tour du monde par l'Alberta. Allez, on va dire état émergent d'un grand pays qu'est le Canada.
Oui, c'est une nouvelle région dynamique dans l'espace économique du Canada. L'Alberta est confrontée actuellement à de graves pénuries d'eau. Ces secteurs pétroliers et agricoles ô combien prospères vont devoir s'adapter à ce stress hydrique, à cette nouvelle donne, et il se pourrait bien donc qu'une page soit en train de se tourner. On a en fait ici un panorama très instructif quant à cette très grande prospérité jusqu'ici de cette province de l'Ouest canadien, texte d'un chercheur mexicain, professeur à l'UNAM. L'UNAM, c'est la plus importante université publique du Mexique. José Luis Ayala Cordero considère que cet essor albertain doit beaucoup à l'intégration économique nord-américaine lancée en 1994 avec l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Il explique comment la région agricole canadienne des prairies a pu consolider son propre développement à partir de sa géographie, certes, mais aussi de ses ressources naturelles, de ses forces vives. Et c'est ensuite, à partir de 2006, que l'Alberta a renforcé cette position dans cette intégration nord-américaine en tant que plus important producteur de pétrole du Canada. L'ALENA lui a ouvert en très grand l'accès aux marchés internationaux. Et par ce dynamisme pétro-gazier et agricole, bœuf, blé, colza, cette province est parvenue à modifier l'équilibre même politique, économique et identitaire, selon l'auteur, du pays. C'est la première ministre conservatrice de l'Alberta, Danielle Smith, qui a eu cette phrase de campagne. Nous ne demanderons pas à Ottawa, la capitale, la permission d'être prospère et libre. Pour le professeur Ayala Cordero, la prédominance du parti conservateur a renforcé l'approche libérale du statut pétrolier albertain, et ce qui a consolidé un monopole politico-économique, je cite, d'une bourgeoisie albertaine, en mesure de traiter maintenant donc de manière très assurée, aussi bien avec son gouvernement fédéral, cette lointaine Ottawa, qu'avec cet immense voisin, les États-Unis.
Direction l'Ukraine, Ben Aouda, mais comment fait-on pour moderniser son réseau ferroviaire en temps de guerre?
Oui, c'est en Ukraine occidentale, c'est son importance. À côté des considérations stratégiques, géopolitiques, dans la perspective d'une éventuelle adhésion de l'Union européenne, de l'Ukraine à l'Union européenne, il y a toujours des jalons techniques à poser, dont on entend très peu parler. Et là, on le voit dans cette recherche collective du Centre d'études Est européennes de l'OSW, c'est un important institut polonais. On voit comment le gouvernement ukrainien s'appuie sur cette guerre en cours pour procéder à la transformation rapide de l'infrastructure ferroviaire dans l'ouest du pays. La priorité actuelle, c'est un plan d'extension des chemins de fer à écartement standard de 1435 mm utilisé dans la grande majorité des pays de l'Union européenne, par opposition à l'écartement des rails large de 1520 mm qui prédomine dans l'ancien espace soviétique et dont, rappelons-le, l'Ukraine faisait partie. L'État ukrainien, et fait toujours partie d'ailleurs, l'État ukrainien a l'intention de déplacer les opérations de transbordement des terminaux frontaliers vers des centres logistiques situés à proximité de Lviv. Lviv, c'est la plus grande ville de la partie occidentale de l'Ukraine, qui se trouve à seulement 70 km de la frontière polonaise. D'accord. Il est également prévu de relier cette nouvelle plateforme régionale autour de Lviv du réseau ferroviaire de la Roumanie, grâce aussi à ce passage à l'écartement standard européen des rails. L'accès au fonds d'adaptation de l'Union européenne à cet égard serait facilité. Mais Slavomir Matoutsak et ses co-auteurs préviennent que si l'Ukraine décide d'une mise en œuvre unilatérale de ses projets logistiques, de ses projets ferroviaires, sans prendre en compte les intérêts de ses voisins, le dossier des chemins de fer, après celui très sensible de l'agriculture, peut provoquer de nouvelles protestations à travers l'Europe centrale. Pour ces experts polonais, il faut donc trouver une solution mutuellement bénéfique, je cite, sur l'emplacement des plateformes de transbordement et des centres logistiques pour gérer les échanges entre l'Ukraine et ses pays d'Europe centrale. Le scénario idéal, écrivent-ils, impliquerait le lancement immédiat de consultations entre les États de la région et l'Ukraine concernant ce modèle de relation des transports frontaliers.
Et enfin, Ben Aouda, vous nous présentez une recherche, une économie politique de Zawiya, groupe armé et société.
Oui, Zawiya qui est en Libye. C'est un travail de recherche publié par le Small Arms Survey à Genève, cofinancé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Rappelons que l'État libyen s'est désagrégé à la suite du renversement du colonel Muammar Kadhafi en 2011. Wolfram Lascher, un spécialiste allemand reconnu, même remarquable de la Libye, se penche sur la quatrième ville du pays, Zawiya, qui depuis 2015 subit une violence endémique avec non pas des affrontements continus mais des affrontements intermittents. Zawiya est une agglomération côtière d'environ 350 000 habitants qui est située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la capitale Tripoli, et elle voit s'opposer quatre groupes armés qui structurent une économie politique. Quatre qui se partagent cette ville, ouais, et par extension influent sur l'ensemble de l'ouest du pays, la Tripolitaine. Ces quatre forces en présence diffèrent fondamentalement les unes des autres par leur composition, par leur modèle économique, par leur relation aussi avec la société locale. L'auteur distingue toutefois la Brigade 52, qui dépend entièrement du financement par le gouvernement de Tripoli, des trois autres groupes, ancrés eux dans des activités illicites. Wolfgang Lascher écrit d'ailleurs que la Brigade 52 a acquis la réputation d'une sécurité disciplinée. À Zawiya, cette prédation exacerbée s'opère en fonction de la base sociale à laquelle une milice est rattachée. On a aussi une description extraordinairement détaillée de chaque composante au travers de l'argent des trafics de migrants, de carburant, de drogue. Ainsi, ces groupes ont étendu leur capacité jusqu'aux zones frontalières avec la Tunisie, avec l'Algérie. Mais le chercheur décrit aussi comment, à l'image d'autres factions armées libyennes, celle de Zawiya, cherche à se réorganiser en entité plus légitime, plus respectable, se normaliser en quelque sorte par touche, afin de préserver sa part dans ce système de prédation, avec l'intention, sur le long terme, de contrecarrer une éventuelle nouvelle mobilisation populaire libyenne.
Passionnant. Merci beaucoup, Belaouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Un couple célèbre. L'auteur, Michel Auferlé, un thème, les patrons. Il en est à son, je ne sais pas combienième livre sur les patrons. Là, c'est un petit livre qui permet, si vous n'avez jamais lu les gros livres des enquêtes sociologiques de Michel Auferlé, ouais, sur les patrons, ben là, vous allez avoir un petit résumé, un tout petit livre. Ça vous permet de savoir alors, qui sont les patrons, c'est quoi la définition, combien il y en a, quel est leur parcours, est-ce qu'ils sont de droite ou de gauche, ou ils sont plutôt de droite, quelles sont les choses, leur capital social, ce qu'ils font quand ils ne sont pas patrons, c'est quoi vraiment le métier de patron, etc. Je vous donne juste un chiffre parmi toutes les données qu'il y a dedans. À la fin des années 90, 55% des patrons des grandes entreprises étaient ce qu'on appelait des patrons d'État, des gens qui avaient fait carrière dans l'administration, dans les cabinets ministériels. Aujourd'hui, c'est 25% seulement, un quart. Donc il dit, voilà, le statut du grand patron se transforme aussi. Tout petit livre, franchement, ça se lit très vite et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans ce tout petit livre.
Sur les grands comme sur les petits.
Sur les grands comme sur les petits.
Jean-Marc Daniel.
Alors, c'est un grand classique, c'est l'économie africaine, donc l'économie africaine 2024, le repère aux éditions de la Découverte. C'est l'Agence française de développement qui s'y colle, toujours avec beaucoup de talent. Hein. D'ailleurs, il y a un petit commentaire en première page qui arrive d'Alternatives économiques pour soutenir ce livre, donc je m'associe à ce commentaire. Donc, le thème central de cette version, c'est le réchauffement climatique, les enjeux du réchauffement climatique en Afrique. Mais le premier chapitre, comme dans tous les numéros, le premier chapitre donne un état des lieux de l'Afrique sur l'année 2023 et les prévisions 2024. Croissance de 3,2% d'Afrique l'année dernière, 3,2% probablement aussi cette année. Mais ce que dit bien le livre, c'est que la crise de la dette pointe. On est de plus en plus sur des pays qui se financent à court terme avec des taux d'intérêt élevés. Et donc, il est probable qu'on va vers une nouvelle crise de la dette en Afrique. Il rappelle quand même que l'Éthiopie, le Ghana ont fait défaut l'année dernière. Et donc, alerte.
Qui s'ajoutera aux autres crises, et notamment la crise climatique. Allez, bah, comme de coutume, quand... une nouvelle revue est publiée, un petit coup de projecteur. Ça s'appelle Mermoz, c'est la revue du Cercle des économistes, un trimestriel, et donc revue de sciences économiques et sociales, avec des analyses, des tribunes, des débats, et un premier numéro consacré au travail, rebattre les cartes. Voilà, le Cercle des économistes, ça sortira tous les 3 mois. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, évidemment, bonne lecture !